Le domaine de la distillerie est très jeune au Québec. Il y a 3 ou 4 ans, on comptait les micro-distilleries sur les doigts d'une main. La distillerie du Saint-Laurent a été l'une des premières à obtenir un permis. Son gin, de très haute qualité, s'est taillé une sérieuse renommée. Mais comme dans tout autre domaine, il faut évoluer et pour la pérennité de l'entreprise, on doit diversifier la production en cherchant toujours à se démarquer.
Joël Pelletier, je suis le cofondateur et l'amiral de la marque de la distillerie du Saint-Laurent.
Amiral, c'est vous qui êtes aux commandes?
C'est un peu ça, oui. On est deux, moi et Jean-François, on se partage les tâches. Lui, il s'occupe plutôt de la production, supervision de production, puis le développement des recettes. Puis moi, je m'occupe plutôt du développement des affaires, le marketing, etc.
Et vous avez une équipe de combien de personnes maintenant?
Incluant moi et Jean-François, on est rendu 7. Donc 5 temps plein, plus 2 temps partiels qui viennent nous aider pour l'embouteillage.
Est-ce que l'entreprise a grossi plus vite que vous auriez pensé?
Avec un peu de recul, je dirais que non. Ça s'est fait de façon assez saine, de façon assez organique aussi. On a eu un départ rapide. Je pense que les premiers mois ont été assez surprenants. Notre introduction à la SAQ en février 2016 s'est passée plutôt rapidement, oui.
Puis là, vous êtes rendu, vous fabriquez quoi, là? Il y a votre fameux gin qui était votre produit de départ, votre produit phare, pourrait-on dire, qui s'est vite classé, là. Je suis allé chercher des prix à gauche, à droite, là, et tout ça, puis il est très apprécié sur le marché. Mais là, vous êtes rendu à quoi, là, comme production?
Principalement le whisky, donc c'est ce sur quoi on travaille principalement actuellement. On continue à développer d'autres produits aussi que le whisky et le gin. On a un acérum qui s'en vient bientôt. Donc l'acérum qui est une nouvelle catégorie de spiritueux à base d'érable. Mais gin, whisky et acérum en ce moment.
Des projets pour d'autres, sûrement des petits secrets, mais sans me dire les secrets, là, vous regardez la possibilité d'étendre encore la gamme?
On veut se restreindre, on ne veut pas commencer à avoir trop de produits sur les tablettes non plus. L'espace tablette est limité au Québec à cause du réseau de la SAQ. Donc, on veut se limiter à certaines choses qu'on va bien faire, donc principalement à sérum, whisky. 3 types de whisky, donc on fait du whisky de single malt, donc du whisky d'orge, whisky de seigle et whisky de maïs, donc une recette de bourbon américain. Déjà, ça fait une belle gamme. En plus, il peut y avoir différentes possibilités de vieillissement, d'âge de vieillissement, donc ça peut finir par faire quand même pas mal de produits quand même, là.
Sur le marché déjà, là?
Pour l'instant, seulement 2 produits, le gin et le gin vieilli sur les tablettes. Les autres produits sont en vieillissement. Donc, on en produit à tous les jours, à toutes les semaines, mais ça repose dans les barils. Ça dort tranquillement dans les barils. D'ici 1 an et demi environ, on va commencer à mettre en marché ces bouteilles-là.
Il faut planifier d'avance, là. C'est comme un bon vieux fromage. On le fait longtemps à l'avance, qui mature correctement. Et là, on profite d'une période d'accalmie, là. C'est la fin de semaine. Et on est dans la micro-distillerie. Et puis, il y a des beaux équipements ici. Ça c'est l'alambic comme tel.
Oui. Donc ici, on est dans le cœur de la distillerie. On est en face des alambics. Donc, on a 2 alambics, un qui sert pour le gin et l'autre qui sert pour l'acérum et pour le whisky. Donc, l'alambic qui sert pour le whisky, c'est un alambic en cuivre, un alambic canadien, de forme écossaise, donc un peu similaire à ce qu'on retrouve en Écosse. Donc, c'est un pot de style, si on veut, en cuivre, qu'on utilise pour faire la distillation du whisky et des alcools d'érable. D'autre côté, on a un alambic un peu atypique, donc un alambic à gin avec un panier d'infusion d'aromates ou un gin basket, comme on appelle dans le jargon, de forme sphérique, un peu comme une tête de scaphandrier.
Ça me faisait penser à certains motifs sur vos bouteilles de gin.
Oui, bien ça en plaît, ça c'est un peu l'inspiration qu'on voulait donner à notre alambic. Puis derrière nous, on a Jean-François qui est arrivé.
Jean-François Cloutier, de la distillerie du Saint-Laurent.
Co-fondateur avec Joël.
Co-fondateur, oui. Et de mon côté, je m'occupe de la production, du capitaine de la production à l'interne.
On le disait tantôt, là, c'est une pause, là, c'est la fin de semaine. Là, vous ne faites pas de production, mais ça travaille dans les cuves et dans les barils.
Oui, ça fermente. On fermente environ 6 000 litres d'alcool par semaine, de bière, on va dire, ou de bière forte, assez forte même. Puis notre cycle de fermentation est sur une semaine, donc avec les équipements qu'on a, ça dure une semaine. On a des employés de production qui font du 4 jours semaine. Puis la fin de semaine, effectivement, c'est un peu plus tranquille. On entend un peu de bulle en arrière, mais les levures travaillent sans nous.
Plus de pression qui sort.
Exactement.
Ça a beaucoup changé. Nous, on s'est rencontrés il y a 2 ans. L'industrie de la micro-distillerie au Québec était encore assez embryonnaire. Ça a beaucoup changé, là.
Ça a beaucoup changé. À cette époque-là, quand on s'était rencontrés, on était 5-6 micro-distilleries au Québec qui étaient en démarrage. Là, à l'Association des micro-distilleries du Québec, on est rendu 40 membres. Sur ces 40 membres-là, il y en a 26 qui ont leur permis, puis les autres sont en processus actif pour avoir leur permis de distillation. Fait que c'est sûr que, oui, dans les deux dernières années, le portrait a changé de beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux produits. Il y a beaucoup de gens qui voient le potentiel de la distillation. Il faut maintenant que la réglementation change un peu pour pouvoir supporter cette industrie naissante-là.
Il y a déjà eu, et là je vais m'adresser à Joël, il y a déjà eu pas mal de changements réglementaires, là, comme la possibilité de vendre sur place, des choses comme ça. Il y a des allègements qui quand même vous donnent une certaine chance, là.
Oui, bien, il y a deux principales choses. Il y a un programme d'aide qui s'appelle le programme du PAPAC, qui est un programme d'aide de
positionnement des alcools québécois, producteurs, je ne me souviens jamais de l'acronyme, PAPAC.
PAPAC.
C'est un aide qui existe déjà pour les vignobles, entre autres. Donc, ils ont transposé ça vers la micro-distillation aussi. Ça, c'est une très bonne aide. Donc, ça nous aide à développer, en fait, nos entreprises. Donc, toutes les bouteilles qui sont vendues, on a une petite ristourne par rapport à ça. Donc, ça, c'est une aide intéressante. Deuxièmement, bien, depuis juillet 2018, on peut vendre sur place. Au même prix que la SAQ, par contre. Donc, on doit vendre au même prix et on en retire la même majoration. Donc, il reste encore du travail à faire, mais quand même, on est sur la bonne voie, je pense.
J'en profite parce que vous êtes là tous les deux, là. Ça vous est venu comment, l'idée de faire de la micro-distillerie?
C'est d'abord une passion pour les spiritueux. Joël travaillait à l'époque à Radio-Canada avec ma blonde, puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait, là, de soirée mondaine, où on comparait vraiment les alcools qu'on avait en main, puis on aimait beaucoup faire découvrir à l'autre un nouvel alcool qu'on avait découvert. Puis dans cette curiosité-là, bien, rapidement, on s'est questionné sur la fabrication de ces alcools-là. On s'est rendu compte qu'on en savait vraiment très peu. Je pense que c'est ça qui nous a le plus allumé, si on veut, c'est de dire, OK, mais comment ça se fait? Puis comment ça se fait qu'on le sait pas? Bon, c'est devenu un peu une obsession, puis on a foncé là-dedans. D'un côté, Joël est allé faire un atelier, un petit workshop aux États-Unis, c'était à Chicago. Puis moi, de mon côté, bien, j'ai fait un petit alambic. Fait qu'on a patiemment distillé des huiles essentielles dans le sous-sol, à regarder ça, puis se poser des questions, puis faire des essais, puis voir comment ça fonctionnait. Puis de fil en aiguille, on voyait aussi le marché américain se développer de façon exponentielle. On parlait tantôt du marché québécois, où on est rendu une quarantaine de micro-distilleries. Mais aux États-Unis, en l'an 2000, il y avait une douzaine de micro-distilleries. Puis à l'heure où on se parle, ils sont près de 3000. Fait que c'est un boom incroyable, puis on s'est dit, ben je pense que c'est maintenant le moment. Si on veut essayer de partir une entreprise dans ce domaine-là, c'est le moment. Fait qu'on est parti très humblement là, avec un tout petit alambic, puis ben, ça a bien été pour nous jusqu'à date. Les ventes du gin financent nos nouveaux équipements, puis tous les nouveaux produits qu'on met en baril.
Il y a un genre de tabou qui existait dans la société québécoise face aux alcools. La bière, c'était correct. Le vin, ben, on avait pris l'habitude d'en prendre et on développait des goûts pour ça. Mais l'alcool, il y avait un genre de tabou, là, et politique et de société.
Ben, depuis la prohibition, en fait, puis depuis les premiers mouvements de tempérance au début du siècle passé, puis c'est resté dans notre société pendant très longtemps. Si bien que c'est une des raisons, je pense, pour laquelle on connaissait très peu les spiritueux, la fabrication des spiritueux. On voyait les bouteilles derrière les bars, derrière sur les tablettes de SAQ, mais on ne savait pas. C'était quoi le procédé pour en arriver là? Un alambic, très peu de personnes ont déjà vu ça dans leur vie au Québec, à part quelques personnes qui ont des oncles, des grands-pères qui distillent dans les chaises en arrière. Là. Tout un tabou.
C'est le fond du bois.
Ouais. Donc, un tabou au niveau culturel, mais aussi au niveau politique. La SAQ, avec tout ce que ça apporte de bien et de moins bien, ça fait en sorte qu'il y a une distance entre la production, entre les producteurs et le consommateur depuis toujours. Puis nous, c'est ce qu'on tente de faire, c'est justement de rapprocher la production des consommateurs. Donc, des gens qui aiment le whisky, qui aiment le gin, de rendre nos équipements accessibles, puis d'utiliser la matière première du Québec, du Bas-Saint-Laurent pour faire nos produits.
Et c'était aussi vu, il y a encore des gens qui le voient comme ça, comme étant, ah, c'est de la boisson forte, c'est dangereux.
Il y a beaucoup de mythes, en fait. Des mythes qui viennent justement de ces mouvements de tempérance-là. Puis, bien, comme n'importe quel mythe, il faut travailler fort pour les défaire. Non, l'alcool, ça rend pas aveugle. Nos produits sont vérifiés en laboratoire avant d'être mis sur les tablettes. On sait qu'est-ce qu'on fait. Il faut défaire ces mythes-là un à un.
Justement, avec la gamme qu'on commence à avoir maintenant sur le marché, puis là, je me retourne vers Jean-François, vous êtes bien installé, pourrait-on dire. C'est sûr qu'éventuellement, vous aurez des locaux qui devront être plus grands, ça. Est-ce que je me trompe?
C'est sûr que ça dépend tout le temps des projets qu'on a, mais surtout de ce qu'on est capable de produire et de vendre. Il faut vraiment bien comprendre que les produits qu'on fait, c'est des produits qui vieillissent 3 ans. Fait que c'est sûr que côté entreposage, ça peut devenir problématique quand on produit 2 à 3 barils par semaine. Fait que ça, c'est des choses qu'il faut qu'on garde. Pour l'instant, la production ici sied, c'est-à-dire qu'on produit une quantité qu'on est capable de financer sans problème. Maintenant, agrandir, ça implique aussi rentrer plus de grains pour nourrir les bêtes. Fait que c'est des choses qu'il faut rentrer dans le calcul. C'est sûr qu'on a tout le temps une vision à moyen puis à long terme pour voir vers les prochaines étapes, mais à court terme, c'est sûr que c'est l'embarrillage qui va devenir problématique.
C'est pas la perpétuité ce que vous avez ici, mais au moins vous êtes confortable.
Oui, ça fonctionne bien, puis on a quand même investi dans le local. Fait que nos équipements sont rodés, l'équipe est rodée, le processus est rodé. Fait que c'est sûr que pour l'instant, effectivement, c'est pas l'idéal. On a vu mieux et plus sexy, surtout comme local, avec l'arrivée des touristes aussi, surtout. Mais pour l'instant, ça fonctionne très bien.
Le gin Saint-Laurent, on le voit sur votre bouteille, la mer, le fleuve, la simili-tête de scaphandre, bon, etc. C'était une inspiration, ça, de départ, à laquelle vous teniez, d'avoir un produit collé à la région, à la source du produit, la source de votre activité, et l'apport de la mer dans le produit, qu'est-ce que c'est?
La part de la mer dans le gin Saint-Laurent, c'est les algues qu'on utilise. Pour nous, c'était vraiment important, en développant ce produit-là, qu'on soit capable de transmettre un peu le... Parce qu'on parle du terroir, mais dans notre terroir, il y a aussi la mer. Quand on connaît le bas du fleuve, on sait que ça fait partie vraiment, du décor, mais ça fait vraiment partie de notre définition, si on veut. Fait qu'on cherchait vraiment un moyen de mettre ça dans la bouteille. Puis bon, de fil en aiguille, les rencontres qu'on a faites avec la gang d'Organique Océan, entre autres, qui nous ont fourni des échantillons de toutes sortes parce qu'eux, ils ont des contrats de récolte d'algues dans le coin. Puis on est arrêté sur la laminaire qui donne vraiment un goût fin, délicat, mais en même temps un côté salé. Puis ça vient de l'île Verte juste à côté de chez nous. Fait que je pense qu'on a réussi à aller transposer ça, cette vision-là maritime, dans notre produit. On est bien content de ça.
Aujourd'hui, on est rendu avec quand même une gamme assez étendue à travers le Québec. Et les produits sont, même si gin, un peu partout, mais tous les produits sont différents. Puis ça aussi, là, vous parliez des algues, mais ce sont des éléments qui, dans chacun des cas, permettent aux gens de développer une culture de reconnaissance des produits, d'une part, mais aussi d'appréciation de différents produits.
Oui, c'est sûr que pour l'instant, là, les gens vont focusser sur le gin, parce que le gin, c'est la première chose que tu peux mettre en marché avant le vieillissement. Il y a effectivement une belle variété. Il faut comprendre, par contre, que le gin, dans le monde, présentement, il y en a 1 et 2. On arrive d'un show en Allemagne, il y a beaucoup de gin sur le marché. À mon avis, c'est dans les prochains produits qu'on va vraiment voir une diversification très intéressante dans les whisky, dans les acérums, qu'on va vraiment voir des terroirs s'exprimer localement. On va voir, c'est l'Amérique qui va nous le dire, c'est une industrie qui est encore très, 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 très jeune. Nous-mêmes, ici à Distillerie, on est une des plus vieilles au Québec, mais on se considère encore très, 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 très jeune. Fait qu'il y a beaucoup de choses à développer, puis je pense qu'on va développer ces caractères-là avec le temps.
À la suite de ce que Jean-François dit, l'avenir, tu vois ça comment, toi?
Bien, pour nous, c'est de continuer à utiliser les matières premières qu'on a dans notre région pour faire nos produits. Bon, le gin, c'est comme Jean-François le dit, c'est un premier levier pour toutes les distilleries. Dans notre cas, notre raison d'être, pourquoi on est ici au Bas-Saint-Laurent, bien, il y a les champs d'orge partout autour de Rimouski. Le Bas-Saint-Laurent, c'est le plus grand producteur d'orge au Québec. Donc, ça fait beaucoup de sens qu'on utilise cette orge-là pour faire du whisky. Première des choses. Après ça, bien, l'acérum, on est entouré aussi de forêts, d'érablières. Donc, nous, on va continuer à développer des alcools faits avec la matière première ici, transformer ces ressources naturelles-là, souvent qui sont utilisées soit pour nourrir du bétail ou pour vendre comme commodité, comme petite canne de sirop d'érable. On veut les mettre de l'avant puis leur donner une plus grande valeur ajoutée, en fait.
Bien, messieurs, merci beaucoup et puis bonne chance pour la suite. Puis vos premiers whisky, c'est quand, là?
Automne 2020 environ.
Plus, bon, le branding, la mise en marché, tout ça, là, on s'entend que les barils sont prêts, on va les ouvrir, on va les goûter, on va les marier, puis on va définir ça va être quoi. Le premier whisky, ça va être un style bourbon, qui n'aura pas le droit de s'appeler bourbon, évidemment. Base de maïs à 75 % mais tout du grain du Québec.
Bien, messieurs, merci beaucoup.
Bien, merci à vous.
Ici Lionel Levac. À la distillerie du Saint-Laurent, Joël Pelletier et Jean-François Cloutier voient l'avenir dans le maintien d'une qualité exceptionnelle de leurs produits et leur aptitude à continuer de démarquer leurs alcools en leur donnant une identité propre et des caractéristiques liées directement aux ressources du milieu, le Bas-Saint-Laurent. Au revoir.